en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
À l'occasion de ces conférences de presse, le général de Gaulle avait inventé un procédé célèbre pour répondre aux questions qui ne lui étaient pas posées. Quelqu'un, me semble-t-il, m'a posé la question. En entreprenant cette communication sur les yeux du Saint-Siège sur la politique extérieure de la France, je me suis posé deux questions pour éviter qu'elles n'encombrent la discussion avec l'auditoire. À savoir, pourquoi les yeux du Saint-Siège et non pas du Vatican, au demeurant ? Et pourquoi les yeux plutôt que le regard ? Plus importante est la deuxième question. Pourquoi, dans le cours d'un cycle organisé par le président de l'année sur l'action extérieure de la France, faire rentrer le Saint-Siège comme observateur ou même comme acteur ? Avant d'en venir à la proposition de quelques observations relevant du thème retenu, je crois utile de justifier ce choix, disons à titre de prolégomène. J'aborderai ensuite diverses considérations significatives en deux temps. Du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à l'élection de Jean-Paul II, le 16 octobre 1978, de Jean-Paul II à l'élection du pape François, le 13 mars 2013. Pour de multiples raisons, je laisserai l'actuel pontificat aux questions le cas échéant. Qu'il soit en tout cas clair qu'il s'agit de l'exposé d'un historien de l'Église et de la papauté et non pas d'un spécialiste de relations internationales. Les yeux du Saint-Siège. Chacun sait que le Saint-Siège désigne la papauté en tant que viagère d'une institution de le Vatican, constitue le domaine territorial, celui d'une souveraineté temporelle. Les deux termes sont souvent reliés par une métonymie, telle l'Élysée et la présidence de la République française. Et pourquoi les yeux plutôt que le regard ? Ni à cause du Sili Prudhomme, relief de mes citations et de récitations enfantines, ni à cause des yeux d'Elsa, ni même à cause des yeux de Chimène. Quoique un de mes amis, ambassadeur qui est d'ailleurs présent ici, à qui j'exposais cette hypothèse de titre, me dit « Le Saint-Siège a toujours pour la France des yeux de Chimène ». De fait, et l'affaire dépasse la boutade, la France, après avoir été depuis le XVe siècle le fils aîné de l'Église, devint la fille aînée avec l'accordaire qui féminisa l'expression en février 1841 en pleine restauration catholique. L'honneur en fut plus facile à adopter par la République après 1875 comme une anaphore singulière de Marianne. Cette mention, reprise par tous les papes à plusieurs reprises, y compris l'actuel pontife, fait référence à la conversion de Clovis en 496. Son 15e centenaire, célébré en 1996 à Reims par Jean-Paul II, causa quelques difficultés au président de la République de l'époque et souleva même une tempête laïque de force 7 sur l'échelle de Beaufort. Cette filiation est toujours attestée dans le tissu urbain de la Rome actuelle. Et au Vatican même, où la fille de Saint-Pierre, Sainte Pétronille, est honorée d'un autel dans le transept droit de la basilique. Une messe en l'honneur de la France est célébrée chaque année le 17 mai. Tous les présidents de la République, sauf Georges Pompidou, se rendirent à Rome pour prendre possession du titre honorifique de chanoine de Saint-Jean de Latran, de Pie XII à Paul VI. Surtout, de Pie XII à Paul VI, les souverains pontifes eurent une expérience qui inscrivit le paysage de la douce France dans leurs yeux et leur sensibilité. Et ce point est important. Le cardinal Pacelli fit un voyage triomphal et princier, d'après la presse, à Lisieux le 11 juillet 1937, comme cardinal légat pour la dédicace de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, suivi d'un voyage qui lui valut un dîner au Quai d'Orsay où il rencontra Léon Blum. Soit dit en passant, Frédéric Lemoyle, dont vous venez parler, Monsieur le Président, a mis en valeur récemment les illusions de la gauche française en 1939 quant à la puissance arbitrale de Pie XII en cas de grave conflit. Le cardinal Roncalli, faut-il le rappeler, fut nonce apostolique en France du 22 décembre 1944 au 13 janvier 1953. Ce fut Vincent Auriol qui prisait sa bonne humeur assez caustique, qui lui remit à la demande du président la barrette cardinalis. Le nonce opéra 48 voyages en France pour l'agacement de Monseigneur Tardini, bras droit de Pie XII, qui le détestait. Paul VI, en tant qu'aumônier de la FUCI, l'Association catholique de la jeunesse italienne, passa un mois en France en l'été 1924, durant lequel il prit des cours de français à l'Alliance française. Jusqu'au cardinal Ratzinger, les souverains pontifes parlaient couramment français. Pie XII, au dire de Vladimir d'Ormesson, lisait Le Monde chaque matin au lendemain de la guerre. L'intérêt de ces détails tient à la perméabilité de ces souverains pontifs, romains ou piémontais, à la culture française et à leur regard croisé sur les situations françaises et italiennes. et relevons que nombre d'observateurs ont voulu constater de la nostalgie dans leurs yeux lorsqu'on évoquait la France, celle des grands auteurs français, l'histoire de France et même son histoire présente. L'imaginaire des papes est un métissage sui generis entre la France chrétienne de Saint-Louis de Jeanne d'Arc, la France des droits de l'homme et Sainte-Thérèse de Lisieux, à laquelle chaque pape voue une dévotion singulière, y compris l'actuelle. Et soulignons que c'est la France qui fut le grand acteur européen de Vatican II. C'est à Maritain, à Jacques Maritain, ancien ambassadeur pour le Saint-Siège au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que fut remis la cérémonie de clôture du 8 décembre 1965, le message du Concile, adressé aux hommes de la pensée et de la science. Le sentiment français de Pie XII à Paul VI n'a rien de comparable avec les souverains pontifes successifs. Jean-Paul II, l'homme qui venait d'un paese lontano, Ratzinger, le Bavarois, et Jorge Maria Bergoglio, italo-argentin, qui ne connaît toujours que Strasbourg. D'autre part, pour parler des yeux du Saint-Siège sur l'action extérieure de la France, se pose la question de la réciprocité de la part de celle-ci. Ce regard est plutôt désigné comme celui posé sur le Vatican que sur le Saint-Siège, à la fois personnel et abstrait. Il est difficile de parler d'une politique étrangère du Saint-Siège, comme on le fait souvent, en parlant même d'un ministre des Affaires étrangères, comme ce fut souvent pour Mgr Torrent, le cardinal Torrent. À choisir, s'il faut choisir, le terme valable serait plutôt « politique extérieure », correspondant pendant longtemps à l'existence d'une institution au sein de la secrétaire d'État, dite « section 2 », jusqu'à la réforme de 1994, appelée également « section Delia Fali Esteri », et devenue « secrétariat pour les relations avec les États ». Pour qu'une politique extérieure ou étrangère existe, le Saint-Siège... Pour qu'une politique extérieure ou étrangère existât, il faudrait plutôt dire que le Saint-Siège exerce une diplomatie. Car pour qu'il y ait une véritable politique étrangère, il faudrait qu'il y ait en plus de la diplomatie une politique de défense et une politique économique. Or le Saint-Siège ne dispose ni de l'une ni de l'autre, éventuellement d'une politique financière. Le problème majeur du Saint-Siège tient à ce qu'il n'est pas comme une nation, il n'a pas comme une nation d'intérêts étrangers, ni stratégiques, ni économiques, mais des intérêts de communion, comme le sont les militants d'un parti politique. Ces fidèles se trouvent dans des situations juridiques variables. Pendant longtemps, la science politique européenne et surtout américaine a opéré un parallèle poussé entre les partis communistes européens et les organisations catholiques. On a pu parler d'Europe vaticane, d'internationale blanche, et pousser les termes jusqu'à rapprocher l'évangile et le marxisme. Ce mélange, d'ailleurs, rencontra quelques mariages fort discutés en Amérique latine avec la théologie de la libération, sur laquelle s'opposaient assez violemment Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger, quoi qu'on dit. Ce rappel élémentaire pour dire que l'analyse du regard, soyons simples, du Saint-Siège sur l'action extérieure de la France est pris ici pour constituer comme un test, ou si l'on préfère, un révélateur. Révélateur non de la nature des relations entre une monarchie catholique romaine et la République française, mais comme élément d'un certificat de référence pour une civilisation chrétienne. Une nostalgie de la France chrétienne, telle que la refigurait Jean-Paul II, dès son arrivée au Bourget le 1er juin 1980, « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Une figure de la cité de Dieu, dirait-on, ou même un lieu d'appréciation des convulsions contemporaines entre Jérusalem et Athènes, entre foi et raison, aujourd'hui au cœur de la civilisation européenne depuis des siècles. L'élection de Jean-Paul II, 13 ans après la fin du deuxième concile du Vatican, est douloureux, et le douloureux règne de Paul VI, en église conciliaire et post-conciliaire, signa la prise de conscience par l'église romaine de la gravité des enjeux qui sont nés de la confrontation entre elle et le monde. L'incertaine constitution Gaudium et Spes sur les relations entre l'Église et le monde moderne, promulguée le 8 décembre 1965, pétrie par la France notamment, sans oublier l'influence de la Belgique et de l'Allemagne, témoigna de l'ampleur d'une révolution copernicienne. Le pape slave, chargé d'en opérer l'application par le verbe et le geste. Il ne s'agit plus dès lors d'expliquer l'Église au monde et de la convaincre et de le convaincre de la mission de celle-ci. Il s'agit pour l'Église autour de Rome de faire comprendre le monde à l'Église pour adjornarer son langage, son message, voire son histoire. Soyons clairs, l'aggiornamento est une figure cachée de la réforme, en tout cas de réforme fondamentale. C'est à la suite de Vatican II que bascula dès 1978 la relation entre la France et le Saint-Siège. L'axe de la civilisation chrétienne se déplaça vers l'Est et le défi aussi. À Noël donne nouveaux enjeux. La France s'inscrivait entre mémoire et avenir dans un contexte international postmoderne. Les papes francophiles. Disons francophiles puisque leur attachement affectif remonte à la conversion de Clovis. Au-delà de l'affectif dans les relations d'observation de la part du Saint-Siège sur l'action extérieure de la France, il faut baliser plusieurs étapes combinant espoir et illusion du Saint-Siège depuis XII à la fin du pontificat de Paul VI en août 1978. Et sans remonter au déluge, il faut quand même rappeler fortement que la défaite de 1940, scellée avec l'armistice le 22 juin, laissa Pie XII désemparé, atterré, perplexe. Où est donc le patriotisme français ? Constata sobrement le pape, car peu enclin aux interpellations telles celles de Jean-Paul II, qui accomplit la seconde et la sienne à sa manière en juin 80. La figure d'une France à la proue de l'Occident pour défendre les valeurs de la civilisation chrétienne, disparaissait aux yeux du pape. Cette défaite de la France et l'installation progressive du régime de Vichy aveugla le Saint-Siège et vis-à-vis de Vichy et vis-à-vis des catholiques. Pie XII, si l'on peut dire, aurait donné cher pour être menacé par la France, comme au temps de Napoléon, plutôt que par Hitler. Les actes et documents du Saint-Siège pendant la Seconde Guerre mondiale témoignent implacablement de la perte de jugement dans laquelle est abîmé le Saint-Siège et aussi du temps qu'il mit à recouvrer la vue. En août 1944, il était convenu que le nonce Valerio Valeri demeurait à Vichy. Et le nonce, quoique doutant beaucoup que de Gaulle fût dans de bonnes dispositions, demandait à ses supérieurs si le Saint-Siège ne pourrait pas favoriser un rapprochement entre Pétain et celui-là. Cette déconvenue et cette incertitude marquèrent l'imaginaire du Saint-Siège jusqu'en 1958, et notamment en 1947, quand le monde crut à une possible Troisième Guerre mondiale. Est-ce à dire que le Saint-Siège devint atlantiste ? Avait-il d'ailleurs un autre choix possible contre Eisenhower et Marshall ? L'entrée du général de Gaulle dans le visère du Saint-Siège laissa le Vatican perplexe. La lettre portée à Pie XII et le commandant Panafi au cardinal Tisserand, datée du 29 mai 1944, évoquait l'avenir avec hauteur pour affirmer, c'est de Gaulle qui parle, « Dès la délivrance, les intérêts spirituels du peuple français retrouveront leur primauté qui met en péril l'oppression de l'ennemi. » Que met en péril la pression d'ennemis ? Nous sommes résolus à les sauvegarder et nous souhaitons infiniment pouvoir être en mesure de le faire en profitant de la spéciale bienveillance de votre sainteté pour le bien accordé à la France. Tel est le contexte de 1944. Une réponse fut convenue. Una lettera da farsi molto bene, note Monseigneur Tardini, à l'époque substitut la secrétaire d'État. C'est une chose délicate et importante, pas plus. Elle fut rédigée le 15 juin et se contenta d'exprimer des vœux, remarquant, comme vous l'observez justement, la fin des combats ne suffira pas à restaurer à la France l'ordre, la tranquillité et la paix. Si elle conservait en son sein des germes funestes de discorde civile et des conflits sociaux qui pourraient lui faire perdre tout le fruit des sacrifices imposés par la plus dure des guerres. Les conversations entre De Gaulle et Staline préoccupaient vivement le Saint-Siège. Les yeux du Saint-Siège sur la 4e République sont d'autant plus attentifs que, malgré l'instabilité ministérielle, la force du Parti communiste, la guerre froide, le projet atlantiste et son échec, la France joue un rôle clé dans le projet européen du pape Pie XII, relayant au demeurant celui de Pie XI. Disons qu'il s'agit d'une ligne continue qui traverse toutes les activités diplomatiques des deux côtés depuis longtemps. Le projet du pape était très clairement exprimé, parmi tant d'autres occasions, dès le 24 décembre 1939. Comment une économie épuisée ou exténuée pourra-t-elle trouver après la guerre les moyens nécessaires à la reconstruction économique et sociale, au milieu de difficultés qui seront énormément accrues de toutes parts et dont les forces, les artifices des ennemis, de l'ordre toujours aux aguets, essaieront de profiter dans l'espoir d'asséner à l'Europe le coup décisif. Cette mission chrétienne de l'Europe, le pape en confie le soin au sens propre en Italie et par procuration en Allemagne et en France au fameux trio des Gasperi, Adenauer, Schumann qui fonda la CECA le 23 juillet 1952. Pie XII compte résolument sur Schumann comme le constate dans son journal inédit Vladimir d'Ormesson. On parlera donc d'une Europe vaticane, voire d'une internationale blanche, dont l'examen par une historiscope au microscope prouve qu'elle revêt une intention stratégique ferme vis-à-vis de l'inépuisable menace soviétique autant que communiste. Mais Pie XII perçut très vite qu'il s'agissait d'un faux triangle isocèle et que l'alliance entre la France et l'Italie passait par l'Allemagne, dont déjà au lendemain de la guerre, nombre d'intellectuels souhaitaient la reconstruction rapide. D'où la phrase fameuse au jésuite Jean Drivaux, fondateur des célèbres documents. Je cite « L'avenir de l'Allemagne est actuellement la prunelle de mon œil par rapport à l'avenir de l'Église », écrit Pie XII. Pour un historien, l'extraordinaire richesse de cette période de construction et d'échec, de pas en avant et de recul, est illustrée outre par le journal de Vladimir d'Ormesson, qui succède à Jacques-Maritain en 1948, par le journal de France du nonce Angelo Rocalli. L'ouverture des archives Pie XII sera illuminante. Pompidou fut plus confisqué par l'échec de la CED, voté le 27 mai 1952 par l'Europe des Six et rejeté par l'Assemblée nationale le 30 août 1954. L'échec, on le sait, fut attribué entièrement par le Saint-Siège au général de Gaulle et au RPF. Mais le Saint-Siège savait parfaitement la réalité du débat, qui, au-delà d'une France encore traumatisée, incluait la relation avec l'URSS et le poids de plus en plus lourd de la constitution de l'Europe de l'Est. À l'égard de celle-ci, au demeurant, le Saint-Siège entretenait de fortes espérances dans le rétablissement, via les églises locales et hiérarchies, d'une influence. Dans ce domaine, une histoire savante s'impose de plus en plus et pourra constituer un paradigme de ce qu'apportent les archives quand elles sont ouvertes et consultables.
À cet égard, Jean-Henri Soutou, dans un livre récent, « La guerre froide de la France, 1941-1990, Monsieur le Président », établit parfaitement comment la France et le Saint-Siège se rencontrèrent, euphémisme, sur la Pologne dès 1946. La Quatrième République joue un rôle peu connu, à la demande du Saint-Siège lui-même, en direction de Varsovie. La France ne nourrissait aucune illusion sur la possibilité d'un accord avec les autorités communistes et la perspective d'élections libres en Pologne qui favoriserait celui-ci. Mais elle dut regretter que le Saint-Siège ait suivi l'avis de l'épiscopat polonais qui déconseilla l'établissement de relations diplomatiques. Faut-il rappeler que concordat ou entente font partie de l'arsenal diplomatique du Saint-Siège depuis l'origine de sa diplomatie et que dès 1921, Pillon chercha à nouer un concordat avec la Russie de Lénine, anticipant quasiment l'établissement d'un régime soviétique. Deux éléments dominèrent sous la 4e République l'attitude du Saint-Siège vis-à-vis de la France, la défense européenne et la décolonisation. Sur le premier point, Pillou fut clair en 1956 dans son message de Noël. Nous nous sentons pleinement en harmonie de pensée avec nos prédécesseurs Léon XIII et Benoît XV, lesquels n'ont jamais nié l'obligation de remplir les devoirs militaires fixés par la loi, mais ont déploré profondément la course effrénée aux armements et les périls moraux de la vie dans les casernes, et indiqué qu'en moment efficace, ainsi que nous faisons le désarmement général. Désarmement général. La question de l'arme atomique fit l'objet d'un douloureux débat au Concile Vatican II, que les évêques américains emportèrent avec difficulté. La question de la dissuasion s'appliquait aussi à la France, le Saint-Siège oscilla fortement, et oscille encore d'ailleurs, entre les deux doctrines, et sur la menace intervenue avec la guerre de 1956, qui le plongea dans un immense embarras. Je parle de la guerre pour Suez. La décolonisation et la question successive de l'Indochine et de l'Algérie générèrent, de la part du Saint-Siège, une position qui suscita quelques mouvements d'irritation en France, à droite comme à gauche. Pour faire bref, l'exemple le plus médiatique fut sans doute l'ouvrage de François Méjean, juriste protestant, qui publia en 1957 « Le Vatican contre la France d'outre-mer ». Il y écrivait que le clergé catholique en France et en pays de mission travaillait ouvertement à la sécession totale de la France d'outre-mer et, je cite, « favorisait les revendications nationalistes d'indépendance totale ». Cette position était portée par les milieux francs-maçons et par nombre de socialistes qui assimilaient volontiers la notion de vaticforme avec celle de cominforme. Telle était aussi l'opinion de l'administration coloniale qui pensait découvrir l'anticolonialisme chrétien. On ne tranchera pas sur ce point. Pidou eut soin de ménager les susceptibilités et de retenir le zèle de certains ecclésiastiques, qui réels. Mais à moyen terme, il est évident que le départ de la France permit au Saint-Siège, dès 1957, de procéder à l'organisation et à la nomination de hiérarchies locales. Tel fut le cas également en Afrique, après l'œuvre du général de Gaulle, quand Bernardin Gantin, ex-Dahomey, fut créé cardinal en 1960. En 1958 s'ouvrit un âge d'or dans l'héritage de regard entre la France et le Saint-Siège qui devint peu à peu résolument gaullien. Pour nuancer, disons qu'il est davantage établi dans une atmosphère qu'une référence. Trois événements consécutifs allaient bouleverser le paysage politique de l'Europe et du monde. Le retour au pouvoir du général de Gaulle, la mort de Pie XII, l'élection de Jean XXIII. Faut-il les rappeler brièvement ? En mai 1958, de Gaulle suscitait un frisson fasciste en Italie. Gaston Paleschi dut organiser une réunion politique avec les médias au Palais Farnèse pour expliquer de Gaulle au gouvernement démocratique chrétien de Zolli. Moins d'inquiétude avait régné au Vatican toutefois, même si la personnalité du général de Gaulle, entre fidélité et indépendance, était perplexe, comme en témoigne le journal du cardinal Tardini. La mort de Pie XII, le 9 novembre 1958, éveilla chez le général, immédiatement, le goût de faire sentir le poids de la France sur l'élection de son successeur. Il ne cacha pas au cardinal Felletin que le patriarche de Venise et ancien nonce avait sa préférence. Les six cardinaux français furent persuadés et rallièrent le patriarche de l'Église catholique syriaque, le cardinal Tapouni. Il fallut 11 tours de scrutin pour élire Jean XXIII par 38 voix sur 50. La France donc pesa. Pape de transition, on sait la suite. Le 25 janvier 1959, Jean XXIII annonçait son projet d'organisation d'un concile œcuménique, mais de Gaulle. Les 23 et 27 juin 1959 se rendaient en Italie pour commémorer les victoires de Magenta et de Solferino. Il en profita pour lui rendre une visite privée au souverain pontife qu'il avait déjà rencontré plusieurs fois. Cette visite étonna. L'instigateur de cette visite fut René Brouillet, que le général de Gaulle devait nommer prince à siège en 1963. L'ancien chef de cabinet du général de Gaulle, premier conseiller de l'ambassade de France prince à siège de 1953 à 1959, était un expert en romanité. Ce diplomate de haute stature, qui avait osé demander au général de Gaulle la grâce de Robert Bézillac en le réveillant à Saint-Cloud par une nuit de neige, drue et ardente, le 5 février 1945, réveillant même Madame de Gaulle qui le lui reprocha, était apprécié pour son aménité proverbiale. Il portait sur tout le visage une extraordinaire courtoisie de l'intelligence. L'acuité de son regard se tempérait parfois d'un voile de tristesse face aux imprudences ou aux prudences de l'Église en concile et après le concile. Cet homme de foi et d'espérance aussi incarna pendant 11 ans une position médiane en balance délicate, gallican à Rome, ultramontain à Paris, si l'on peut dire. C'est sous sa direction que le Saint-Siège en concile et après le concile avala, si j'ose dire, sans trop de troubles, la politique extérieure du général de Gaulle et sa position singulière dans l'ordre des relations internationales. Sur la construction européenne, grande sur la satisfaction du Saint-Siège, avec la signature du 22 janvier 1963 du traité de l'Élysée sur la coopération franco-allemande. Mais évidemment, ce traité posait la question de l'équilibre avec l'Italie, comme toujours, et déjà en 1952. Évidemment, le Saint-Siège n'entra pas officiellement dans le débat, pas plus que dans celui de savoir s'il pouvait en résulter une remise en cause du leadership américain. Paul VI était européen. En revanche, le Saint-Siège suivit avec inquiétude la crise qui aboutit le 30 juin 1965 à la politique de la chaise vide, plaidée par le général de Gaulle pour mettre un terme à la dérive fédérale de la construction européenne. Toutefois, faut-il le rappeler, entre le 16 et le 28 octobre 1962, le Saint-Siège changea de planète, si l'on peut dire, sous la discrète intervention de l'URSS et grâce aux relations intrapersonnelles entre Jean XXIII et le milieu khrouchtchevien, la famille même. La crise de Cuba fut résolue subtilement au bénéfice d'une popularité spectaculairement accrue du bon pape Jean. C'est en 1963 également que l'Express titra sa première couverture, ainsi le Vatican troisième grand point d'interrogation. La donne changeait et changeait rapidement. L'élection de Paul VI le 3 juin 1963 amena au Vatican un pape décidé à en résoudre en faveur du Saint-Siège la redoutable crise conciliaire ouverte au moment où il succéda à Jean XXIII, à savoir crise du conciliarisme. Pour faire face à cette dérive dans laquelle l'épiscopat français et certains catholiques français jouèrent un rôle dont l'issue échappait encore à la plupart, Paul VI opposa ses encycliques, concurrençant les travaux conciliaires, et surtout opposa la conquête missionnaire de la planète par ses voyages. Le plus spectaculaire eut lieu en Terre Sainte du 4 au 6 janvier 1964, entre la deuxième et la troisième session consulière. Paul VI fut le premier pontife à se rendre à Jérusalem et à essayer d'opérer un rapprochement plausible entre le monde arabe et Israël. Suivit le voyage à l'ONU en septembre 1965, où c'est un Français qui suggère au pape la fameuse phrase avant de prendre la parole devant cet auditoire unique au monde. L'ONU, si l'on peut dire, était sacralisée, surtout face à De Gaulle qui, le 21 février 1966, quittait l'OTAN. Le Saint-Siège exprima sa certitude, je cite, qu'avec ou sans De Gaulle, l'OTAN continuerait à exister. Paul VI visita les cinq continents les uns après les autres, systématiquement. On notera que si à la surprise générale, De Gaulle reconnut la Chine le 30 janvier 1964, surprise qui fut totale au Saint-Siège, le pape entreprit du 26 novembre au 5 décembre 1970 un voyage en Extrême-Orient qui, du Pakistan au Ceylan, au travers des Philippines et de l'Australie, le ramena à Hong Kong, aux portes de la Chine. Paul VI, tout au long du concile, avait en vain espéré de Pékin la participation d'évêques chinois, comme pour les pays de l'Europe de l'Est à laquelle il parvint. On voit les obstacles. Le pape ne cacha pas ultérieurement son admiration pour l'audace du général de Gaulle auprès du cardinal Etchegaray, chargé d'une mission spéciale en Chine en 1978. Aujourd'hui encore, le souverain pontife rêve de se rendre en Chine. Étonnante cette sorte de concurrence et de parallèle entre le pape et le général. Dans cette géopolitique de la paix, il est évident que la fameuse expression prononcée par le général de Gaulle le 27 novembre 1967, « Les Juifs, un peuple d'élite sûr de lui et dominateur », fut un coup de pied dans la fourmilière orientale et plongea le Saint-Siège dans l'embarras. Il n'en demandait pas tant, si j'ose dire. Il faut rappeler qu'immédiatement après la fin de la guerre de 1967, le gouvernement de Tel Aviv cherchait un contact avec le Vatican pour apaiser les craintes qui s'étaient manifestées sur le destin de Jérusalem et des lieux saints. Il en résulta une révision de la position du Saint-Siège sur Jérusalem. Pour la première fois, le 22 décembre 1967, le pape, dans son allocution de Noël, ne proposa pas à nouveau la demande d'internationalisation territoriale de Jérusalem. Le Saint-Siège chercha dorénavant une formule alternative au corpus separatum, à savoir à la sauvegarde des lieux saints et de la physionomie religieuse et historique de la ville sur le plan territorial. Le refus progressif d'une solution fondée sur la seule territorialité des lieux saints était implicite, car elle ne garantissait pas la sauvegarde du caractère sacré de la ville. Rappelons aussi que le consulat général de France, institué au moment où commençait le mandat britannique sur la Palestine, détient et détient toujours les privilèges liturgiques et honorifiques en tant que protecteur des communautés catholiques françaises à part du statut des lieux saints et complique la position de la France dans toute négociation. C'est à cette époque que s'ouvrit la suspicion envers la France de s'installer dans une politique pro-arabe qui allait durer. On sait peu de choses, seuls les ambassadeurs le savent peut-être, sur les incertitudes suscitées au Vatican par les voyages successifs des papes en Israël et la politique du Saint-Siège depuis la reconnaissance déjurée d'Israël par le Saint-Siège le 30 décembre 1993. Il est évident qu'il existe un parti pro-palestinien au Vatican. Il est non moins évident que le mariage de Benoît XVI en mai 2009 suscita de très fortes réserves au sein de l'appareil. « Numquam satis » s'écriait un dignitaire royaliste. Georges Pompidou ne se rendit pas à Rome pendant son quinquennat. C'est là qu'il avait esquissé sa candidature à la succession du général, mais Rome comme Napoléon, lui inspira quelques timidités, si le mot est juste. Mais c'est sous son quinquennat que percèrent en France des problèmes sociétaux qui allaient fortement gâcher les relations entre la France et la Siège, et le Saint-Siège à la suite du manège évité en 1968, à la suite de l'encyclique humaine évité en 1968. Cette générale à vive remontrance de Paul VI au président Giscard d'Estaing à l'occasion d'une visite à Rome le 1er décembre 1975. Pas à pas, la question de la laïcité qui sera fortement présente en 1996 revint sur le devant de la scène, appuyée par celle du mariage pour tous, la procréation médicalement assistée, l'euthanasie, n'anticipons pas car... Vive la Pologne, monsieur. L'irruption de Jean-Paul II sur la scène internationale le 8 octobre 1978 fut le fruit d'un conclave qui avait songé à la mort de Paul VI. Les cardinaux français, encore une fois belges et allemands, constituaient l'essentiel des électeurs, ainsi paradoxalement que quelques curialistes. Depuis Paul VI, la curie était internationalisée. Le pape fut menacé dans sa personne dès le mois de décembre 1979, au dire de Georg Weigel, son meilleur biographe. Il poursuivit inlassablement l'itinéraire des deux poumons Occident-Orient. Il stupéfia l'Europe par une stratégie individuelle qualifiée par le canal Casaroli de coup de boutoir, notamment vis-à-vis des Balkans. L'os politique de Jean-Paul II fit face à la politique européenne de François Mitterrand, qui opéra pour sa part une synthèse entre les conceptions de Jean Monnet et celles de Charles de Gaulle, et œuvra pour l'émergence d'une Europe occidentale en s'efforçant de lui apporter une dimension sociale, je cite Thierry de Montbrial. Par une bonne entente franco-allemande satisfaisante pour le Saint-Siège, le 10 décembre 1991 fut adopté le traité de l'Union européenne qui, à sa manière, renforça la reconstruction menacée par l'écroulement de l'Union soviétique. Ainsi se firent face l'Union économique et monétaire et la politique étrangère de sécurité commune. De son côté, le Saint-Siège, par une subtile entrée grâce à la porte culturelle à la conférence sur la sécurité et coopération en Europe, Helsinki, grâce au rôle actif et coordonné de Jacques Andréani et de Mgr Jean-Louis Torrent, était devenu un partenaire du dialogue international permettant à l'Europe de découvrir ses racines particulièrement chrétiennes tout en combattant pour des valeurs à portée universelle. Jean-Paul II se rendit à France à 8 reprises. Itération exceptionnelle de la part d'un pontife qui élabora un autre monde et le total des voyages représente 3 fois celui de la Terre à la Lune. Il se rendit deux fois à Lourdes et opéra un voyage européen à Strasbourg en 1988, où il affirmait notamment devant le Parlement européen du 11 octobre « Si le substrat religieux et chrétien de ce continent devait parvenir à être marginalisé dans son rôle d'inspirateur de l'éthique et dans son efficacité sociale, c'est non seulement tout l'héritage du passé européen qui serait nié, mais c'est encore un avenir digne de l'homme européen. » Je dis de tout homme européen, croyant ou incroyant, qui serait compromis. Rappelons pour mémoire que son entretien à Rome avec le président Mitterrand le 28 février 1982 resta le plus long de l'histoire des présidents français jusqu'à présent. Il dura 75 minutes. Mitterrand ne cachait pas ses inquiétudes religieuses enracinées dans la foi chrétienne, dans sa foi chrétienne. Il s'interrogea beaucoup à ce sujet sur la fin de sa vie, pour la discussion duquel il convoqua de nombreux grands esprits. Peut-être s'agissait-il déjà des racines chrétiennes de l'Europe. Mais ce dialogue imaginaire ne peut pas laisser de côté la dramatique opposition entre la France et Saint-Siège à propos de la Yougoslavie. Elle rencontre un nouveau visage du Saint-Siège dans l'exercice de sa mission. En quelques mots, la tentative de regrouper tous les Serbes dans un même État entraîna, comme on sait, dans une logique de guerre et d'indépendance, l'éclatement de l'État fédéral, à commencer par la Croatie, où les Serbes, remis par Belgrade, demandèrent à être rattachés à la République serbe. Le conflit s'étendit par ondes concentriques et la Bosnie multiethnique, proclamant son indépendance, fut prise dans l'engrenage. Le siège de Sarajevo commença en avril 1992. On reprochera beaucoup à François Mitterrand son dimanche théâtral à Sarajevo le 27 juin 1992. Les 12 étaient favorables à 16 autodéterminations, mais le président français y était absolument hostile. Il pensait à une redéfinition des frontières qui s'avait pourtant historique et respectée par Tito. Il était serbe de cœur. Le caractère religieux du conflit ne lui échappait pas. Pas plus qu'il n'échappa au Saint-Siège qui, dans cette sanglante confusion, cherchait des espaces de liberté religieuse du moment, d'après les mots du cardinal Torrent. Et surtout, la relance de l'activité œcuménique. C'est dans ces conditions que, face à l'aggravation du conflit, le Saint-Siège propose à l'Européen une reconnaissance de protection en phase avec l'Allemagne qui ne cachait pas son soutien à la Croatie. Tout en appuyant l'envoi d'une force d'interposition, le Saint-Siège reconnaissait la Slovénie et la Croatie le 10 janvier 1992, 5 jours avant les 12. On retint la phrase agacée de François Mitterrand, « Deux poids, les Croates, c'est le Vatican, les Vaticans, le Croate, c'est le Vatican et l'Allemagne. » Point noir dans les relations entre le président et le chancelier Kohl, point noir aussi entre François Mitterrand et Jean-Paul II. Le président de la République, en 1987, dans son discours sur l'identité de la France à la Sorbonne, n'avait-il pas placé en plus les Polonais parmi les derniers, ou presque, par une secrète ironie de contrepoint. Bref, peu après, derrière le grand plan de Saint-Siège sur les Balkans, on lisait le grand dessin de Jean-Paul II sur les racines chrétiennes de l'Europe et la place de la Pologne dans le monde. La question des racines chrétiennes de l'Europe fut la cause du grand dissentiment entre le Saint-Siège et la France, surtout après l'acceptation par Jacques Chirac, de l'abandon de la référence à ses racines dans le projet de constitution européenne de 2004. Les efforts de Nicolas Sarkozy ultérieurement en faveur d'une laïcité positive, défendue devant Benoît XVI le 20 décembre 2007, lors d'un voyage difficile au Vatican, ne changeront pas l'image de la France aux yeux du Saint-Siège, celle d'une terre de l'humanisme chrétien en voie de déshérence au sein d'un monde où l'Europe, je cite, « ressemble à une grand-mère vieille et stérile » selon les mots du pape François. Rappelons enfin qu'au fil de ses échanges avec Dominique Volton, le pape François évoquant la laïcité à la française, écrit « Dans l'héritage français, les lumières pèsent trop lourd, les religions sont vues comme une sous-culture. Je comprends cet héritage de l'histoire, mais c'est un travail à faire que de l'élargir. » Envisager l'évaluation du degré de non-conformité de la France aux promesses de son baptême ou inversement de la nature possible, de la nature du possible dans le message de l'Église romaine relève d'un improbable effort. En tout cas, dans ce cas précis, la question n'est pas soulevée. La question n'est soulevée en conclusion que pour constater qu'elle fait actuellement l'objet d'une réflexion croisée de quelques théologiens ou philosophes, notamment italiens, qui s'interrogent sur les mutations radicales du discours romain de Jean-Paul II à Benoît XVI et surtout de Benoît XVI au pape François. En fait, ils s'interrogent sur son ampliation critique à partir de 1978. Et l'ensemble se situe dans le cadre d'une opposition manifeste entre les deux voisins de palier que sont Jean-Paul II, que sont le pape François et le pape Benoît XVI. Benoît XVI, à l'occasion d'un discours prononcé devant le Bundestag le 22 décembre 2011, déclarait « Un dramatique changement est arrivé au cours du dernier demi-siècle. Un concept positiviste de la nature s'est imposé dont aucune indication qui soit et en quelque sorte, dont aucune indication qui soit en quelque sorte de caractère éthique ne peut réellement découler, et dans laquelle les sources classiques de la connaissance et du droit ne sont mises hors jeu. Et de comparer le monde à un ensemble d'édifices en béton armé sans fenêtres où, je cite, nous donnons seul le climat et la lumière et nous ne voulons pas recevoir ces deux choses du vaste monde de Dieu. Le pape émérite renvoie finalement à une écologie de l'homme qui rend la nature à l'homme. On l'aura compris, il ne s'agit pas du glyphosate, mais de réfléchir pour, je cite, savoir si la raison objective qui se manifeste dans la nature ne suppose pas une raison créatrice, un creatus spiritus. À cette critique d'un néo-positivisme qui peut faire croire à l'homme qu'il s'est recréé et peut se recréer lui-même et qui vise essentiellement l'Occident, le pape François substitue le mythe du peuple, c'est-à-dire d'une énergie morale dans la construction de la planète, faite de terre, de maisons et de travail pour tous. C'est exclu, qui dépasse le caractère formel du cadre démocratique. Le pontificat du pape François est incompréhensible pour les Occidentaux, compte tenu des assimilations naturelles auxquelles sa démarche porte, avec un marxisme revisité par saint François d'Assise. L'Occident n'intéresse que très peu ce pontife qui enthousiasme la France, qui enthousiasme en France tous les degrés de la sensibilité anticléricale, mot que le pontife romain a réussi à retourner en sa faveur. La France est probablement le pays d'Occident le moins à même de recevoir le message d'un pape qui parle de Dieu de manière à la façon révolutionnaire et évangélique. Benoît XVI évoquait le pusillus grex d'un monde à reconstruire pour le christianisme et en christianisme. Le pape François, parle de la force morale des exclus. Le pape se pose de plus en plus la question soulevée par Jean de Lumeau. La France se pose de plus en plus la question soulevée par Jean de Lumeau en 1977. Le christianisme va-t-il mourir? Disons que les remarques du pape sur l'accueil des migrants n'enchantent pas la réponse. Je vous remercie.